Étude sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent.
Je te connais, oh Jésus. Te connais. Il n'y a rien de meilleur.
Auditeurs et auditrices de la Fréquent de l'espérance et la différence, JVA. Bienvenue à l'heure de l'émission Études sur Cantique. Nous sommes encore là en ce jour ensemble pour étudier un cantique, je dirais, spécial de par ses paroles, spécial parce que cela nous invite à une mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissée avant de quitter cette terre. Nous allons écouter, nous allons étudier, nous allons apprendre de ce cantique qui est intitulé « Secourez les perdus ». Je vous laisse écouter le cantique en français. Allez, c'est parti. Bien. Christ est plein de bonté, il sauvera. Vous venez d'écouter le cantique que nous allons étudier cet après-midi dans l'émission de ce jour, Études sur Cantique. Nous sommes avec l'autre Laurent. L'autre Laurent, bon après-midi ou bonsoir.
Bonsoir Olivier.
De qui devons-nous ce chant, s'il te plaît? Qui est l'auteur de ce chant?
Le cantique que nous venons de suivre est l'œuvre de Fanny Crosby. Elle est née le 24 mars 1820, décédée le 12 février 1915. Donc, elle était âgée de 95 ans, encore 5 années, et puis elle aurait 100 ans. Bien, c'est une Américaine. Elle est une parolière, elle est auteure de textes chantés. Donc, elle a son actif 8000 hymnes, chants de gospel. Au nombre des cantiques qu'elle a écrits, vous vous souvenez de To God be the glory, great thing he has.
À Dieu soit la gloire. En
oui,
français, c'est ça.
C'est elle.
Soit la gloire.
Voilà, c'est elle qui a chanté ça.
Pour son grand amour, dans mon âme noire, s'est levé le jour. C'est elle qui est l'auteur de ce cantique.
C'est elle.
Ah, très bien.
Elle écrit et un certain William Howard Doane, lui, c'est lui qui met la mélodie.
Ah,
donc elle écrit, elle est parolière, elle écrit et l'autre met la mélodie.
Chacun a sa mission.
Voilà.
Très
donc
bien.
Elle a aussi écrit Pass me now, gentle Savior.
Ne vous trouve pas pareil. On connaît bien ça en Évé.
My humble cry. Donc c'est elle qui a écrit ça aussi. Okay. Et puis il y a Blessed assurance.
J'ai l'assurance de mon salut.
Jesus is mine. Donc c'est elle qui a écrit ça aussi.
Oh bien.
Donc là, elle est d'une famille presbytérienne. Et à l'âge de 6 semaines, quand elle était toute petite, elle a eu une infection oculaire, une infection au niveau des yeux. Et on lui a donné un traitement inapproprié parce qu'un monsieur s'est fait passer pour médecin. Et donc là, à partir de là, elle est devenue aveugle. Donc à partir de 6 semaines
six
de vie.
6 semaines de vie, d'existence sur la terre, elle a perdu la vue.
Elle a perdu la vue.
Et en dépit de cela, elle a donné sa vie à Jésus.
Voilà. Donc elle a dû s'inscrire à l'école, à une école à New York pour les malvoyants ou ceux qui ont des handicaps visuels.
Voilà.
Donc, très tôt, ses talents de musicienne ont été reconnus. Et puis, elle avait une mémoire phénoménale. Et déjà, à l'âge de 10 ans, elle pouvait citer les 4 premiers livres de la Bible. Elle a mémorisé. Et elle peut aussi citer les 4 premiers livres du Nouveau Testament. Donc, les 4 premiers de l'Ancien Testament, les 4 premiers du... comme elle a perdu la vue, donc elle a compensé cette perte visuelle par une mémoire très terrible. Donc là, en 1850, elle s'était convertie dans une église de méthodistes. Et vous savez, l'église méthodiste à l'époque, conversion veut dire, après ça, il faut faire l'expérience de la sanctification, et ainsi de suite. Donc là, après sa conversion, elle a préféré rester avec l'église méthodiste, parce que étant presbytérienne de par la famille, donc elle est restée là parce que l'église méthodiste à l'époque allait à la recherche des gens qui vivaient en marge de la société. Donc elle était motivée à pouvoir travailler avec eux. Donc maintenant, ce qui l'a amené à composer ce cantique, c'est que dans les enceintes de la mission où les gens venaient, des hommes venaient, se formaient, repartaient, elle avait l'habitude d'aller voir ces hommes-là pour leur parler de Jésus. Elle les appelait mes garçons. Donc elle voit tout le temps leur parler. Et donc un soir, elle est partie et pendant qu'elle faisait l'exhortation ou prêchait, elle avait la conviction qu'il y avait dans la foule un garçon qui avait fait la promesse à sa maman, parce que sa maman était sur le point de mourir, elle lui dit: mon fils, je suis en train de mourir. Promets-moi que tu vas me rejoindre au ciel. Donc, le garçon, entre-temps, a rétrogradé. Il vivait n'importe comment. Donc, là, le soir, là, Crosby sentait qu'il y a quelqu'un, un jeune homme qui a fait cette promesse à sa mère. Mais à l'heure où elle parlait, le jeune homme l'a rétrogradé. Donc, elle a insisté. Et à la fin, le jeune homme s'est approché d'elle pour lui dire, c'est moi, c'est de moi qu'il est question. Mais c'est trop tard, pas ma vie, je ne peux pas, tout et tout, mais... Crosby l'a amené et il s'est converti le jour-là. Donc, quand le jeune homme s'est converti, Crosby est rentré. C'est arrivé à la maison maintenant qu'elle a eu l'inspiration
de composer ce chant-là.
Voilà.
Et puisque les paroles, là, je comprends à peu près maintenant les paroles qui sont citées dans le chant. On va en revenir. C'est l'expérience qu'elle a vécue avec ce jeune homme-là, avec ce garçon-là, qui l'a amené à composer ce cantique.
Et quand elle a fait maintenant, Doane est venu et il a mis la mélodie dessus.
Très bien. Mm-hmm. Nous avons ici aussi la version anglaise. On va se permettre de la jouer, d'écouter mm-hmm. la version anglaise. Mm-hmm. Et là, c'est Rescue
the Perishing. Mm-hmm.
Ok, je vous laisse écouter la version anglaise. C'est juste un extrait de la version anglaise de Secourir les perdus, oui, Secourir les perdus, ou bien Secourir les perdus. Alors, l'autre Laurent, est-ce qu'on peut avoir rapidement les paroles en français et en anglais?
C'est dit ceci, secourir les perdus, soigner les mourants, et par pitié, sauvez-les du péché. Pleurez pour les errants, relevez les faibles, parlez-leur de Christ, le puissant sauveur. Là, je lis le refrain maintenant. Secourez les perdus, soignez les mourants. Christ est plein de bonté, il sauvera. Deuxième couplet. Quoique tous le méprisent, il attend toujours de voir revenir l'enfant pénitent. Suppliez-les sans cesse et avec tendresse. Jésus pardonnera s'il se répand. Le cœur coupable de l'homme, brisé par Satan, peut être pleinement guéri par la grâce de Dieu. Touchés par notre amour et par notre bonté, les cordes rompues vibreront de nouveau. 4. Secourez les perdus, le devoir l'exige, le Seigneur donnera la force pour l'œuvre, menez-les patiemment à l'étroit chemin, dites aux pauvres errants qu'un sauveur est mort. Ça, c'est la version française, mais dans l'original en anglais dit ceci. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Weep over the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus, the mighty to save. Le refrain dit ceci, rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Le deuxième couplet, though they are slighting him, still he is waiting, waiting the penitent child to receive. Plead with them earnestly, please with them gently. He will forgive if they only believe. Troisième couplet. Down in the human heart, crushed by the tempter, feelings lie buried that grace can restore. Touched by a loving hand, loving heart, wakened by kindness, cords that are broken will vibrate once more. Quatrième et dernier couplet. Rescue the perishing, duty demands it. Strength for thy labor, the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently win them. Tell the poor wanderer, a Savior has died.
Très bien. Merci pour les paroles. Ce qui est intéressant, les paroles sont riches d'enseignement. Quand j'aborde le premier couplet, secourez les perdus, soignez les mourants, et par pitié, sauvez-les du péché. Secourez les perdus, soignez les mourants, et par pitié, sauvez-les du péché. Pleurez pour les errants, relevez les faibles. Parlez-leur de Christ, le puissant sauveur. Alors, que doit-on faire pour secourir les perdus? C'est pas ce...
Le devoir du chrétien, c'est le salut des âmes. C'est le devoir fondamental du chrétien. D'accord? C'est le devoir que le chrétien a vis-à-vis du monde. Le devoir que le chrétien a vis-à-vis du Seigneur, c'est l'adoration.
Ok.
D'accord? Et là, pour pouvoir secourir les gens, il faut quand même que l'on soit... animé de compassion. Parce que là, dans tout ce qui est dit, c'est vrai que c'est comme des instructions qui sont données, des ordres qui sont donnés. Mais quelqu'un, à un moment donné, dit pleurez pour les
errants.
On ne peut pas gagner quelqu'un à Christ avec un cœur sec, avec les yeux secs.
Ça veut dire que dans la chambre, quelque part dans la maison, on a dû prier, pleurer pour les perdus.
Bien sûr.
Okay.
Quand nous lisons l'histoire des grands réveils, là, vous allez voir des gens qui pleuraient, qui demandaient même à Dieu, donne-moi l'Angleterre ou prends ma vie. Donc il faut être pénétré de la passion et de la compassion des âmes avant de pouvoir s'investir pour eux. Dans Jude, le verset 23, il est dit, sauvez les autres en les arrachant du feu, ayez pitié des autres avec crainte, haïssant jusqu'aux vêtements souillés par la chair. Tu vois donc, l'œuvre de l'évangélisation ne peut être faite si l'on n'est pas ému de compassion. Et au-delà de la compassion, l'urgence de l'heure, ce qui se passe maintenant là, la personne que je vois aujourd'hui, je peux ne plus la voir demain. Et ce sera pour l'éternité. Plus jamais cette personne ne vivra sur la face de la terre. Donc, quand on se laisse pénétrer par ça, ça nous pousse à dire, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur nous dit, nous devons participer au sauvetage des âmes. Nous ne sommes pas le sauveur, mais nous participons au sauvetage des âmes. Là, dans Proverbe, il est dit ceci, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. Le vrai serviteur de Dieu est un gagneur d'âmes. Et quand on va voir plus tard dans la vie de Paul, on va voir ces traits-là. Quand le Seigneur voit des foules et il est ému de compassion, c'est parce qu'il sait que c'est des gens qui n'ont personne pour les guider.
Des gens qui ont soif spirituellement.
Oui,
maintenant, qui ont besoin du salut.
Qui va les encadrer? C'est pour cela qu'il a formé les disciples. Et les disciples, à leur tour, ont fait la même chose. Et c'est parce que quelqu'un a eu pitié de nous. Quelqu'un a pleuré devant Dieu. Quelqu'un s'est investi dans la prière. C'est pour cela que vous et moi, aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Et cette personne, quand elle a fini, elle nous a prêché. Parce que quand on prêche, quoi, d'un point de vue juste intellectuel, un grand serviteur de Dieu a dit, tout message qui naît juste sur le plan intellectuel, quand vous le prêchez, ça va toucher juste l'intellect des gens, pas le cœur. C'est avec passion, avec amour qu'on peut donc porter ce message-là. Et là, il a dit, parle-leur de Christ, le puissant sauveur. C'est de ça qu'il est question. Jésus seul est notre message. On ne va pas parler d'un être humain. On parle uniquement que de Jésus-Christ parce que c'est lui qui est allé à la croix, c'est lui qui est vivant et c'est lui qui sauve.
Très bien. Alors, il y a aussi le refrain. Là, secourez les perdus, soignez les mourants. Christ est plein de bonté, il sauvera. Un message est véhiculé ici.
Là, vous voyez le partenariat avec le Seigneur. C'est vrai, il est ressuscité, il est allé au ciel, mais il vit en nous. Quand je te vois actuellement là, c'est vrai, en tant qu'être humain, je te vois. Mais comme il vit en moi, lui aussi te voit. Si nous voyons la chose comme ceci, qu'il n'est pas juste quelque part à côté de nous, il est à l'intérieur de nous. Quand je te vois, moi, je te vois physiquement, lui te voit à la fois physiquement et spirituellement. Et il voit en même temps ton état. Et il sait dans quel état tu es. Donc, quand la prière réelle, l'intercession réelle, c'est de dire au Seigneur, fais-moi voir les hommes tels que tu les vois. Et lorsque nous voyons ça, Nous pleurerons dans la prière. Nous lutterons dans la prière. Et quand nous venons, nous prenons un micro ou bien n'importe quel moyen. Là, le message aura son impact sur les gens. Donc ici, c'est un partenariat. Jésus sauvera les gens si nous faisons l'œuvre de gagneur d'âme par amour et par compassion pour ceux qui périssent. L'apôtre Paul, lui, quand il a dit par exemple dans 1 Corinthiens 9, 22, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Ouais, c'est-à-dire que la passion de sa vie, c'est il faut que les gens soient sauvés. Il faut que les gens naissent de nouveau. Et c'est pour cela que il n'a pas hésité à s'investir. Quand il dit dans 2 Corinthiens 12, verset 15, pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Les sacrifices de Paul, c'est pour. Il avait la pensée de l'éternité. Quand il voit un homme, il ne voit pas aujourd'hui. Il dit, si cette personne quitte ce monde, elle va rentrer dans l'éternité. Elle pourra plus jamais avoir l'occasion de se repentir. C'est le moment où jamais où il faut lui parler. Donc, certains peuvent penser que Paul c'était un fou pour Dieu. C'est un fou pour Jésus. Pourquoi? Toute sa vie, il n'y a qu'une seule chose en lui, le gain des âmes. Que des gens soient sauvés, que leur destinée soit transformée, qu'ils soient arrachés du feu, que leur vie soit orientée maintenant selon la direction du Saint-Esprit. Et c'est tout ce que Paul a fait jusqu'au dernier souffle. C'est pour cela qu'il utilisait tous les moyens possibles pour faire passer le message. Même en prison, quand on l'avait condamné à mort, il a encore envoyé une épître à Timothée. Vous voyez, s'il est divers en notre temps, il va utiliser
les réseaux sociaux.
Oui. Oui.
Très bien. Alors, mais toujours dans le refrain, il est dit, vers la fin, il est dit, Christ est plein de bonté, il sauvera. Là, elle met l'emphase ici sur cette compassion-là qui doit brûler de
Jesus
dans notre
âme. Jesus is merciful. Oui.
Oui. Christ est plein de bonté.
Il est sauvera.
Il
parce que
sauvera.
Jésus a dit, il ne rejettera jamais quelqu'un qui vient à lui. Quel que soit le péché que la personne a commis. Dès que la personne s'approche de Christ, demandant pardon, parce que c'est ce qu'il a dit. La repentance et le pardon des péchés. Dès que la personne vient demander pardon, il lui pardonne sur le champ et il sauve son âme.
Très bien. On va souffler en musique en écoutant encore un extrait de ce cantique-là, Secourir les perdus, que nous étudions dans l'émission de ce jour. Aborder dès à présent le couplet 2. Le couplet 2 nous dit ceci, quoique tous le méprisent, il attend toujours de voir revenir l'enfant pénitent, suppliez-les sans cesse et avec tendresse, Jésus pardonnera s'il se repent. Le couplet 2 exprime l'amour de Dieu à l'égard du pécheur. Est-ce que c'est réellement ça?
Oui, bien entendu. Bien entendu. Tu vois, l'Écriture dit, lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. En d'autres termes, nous tous, avant notre conversion, nous étions des impies. Et bien plus, il est dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, autant pour moi, des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions des impies, nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu vois un peu? Donc là, c'est par amour qu'il a accepté d'aller à la croix. C'est par amour qu'il s'est livré. C'est par amour qu'il a accepté, subi cette mort horrible. Et c'est cet amour-là qui nous guide, nous aussi. C'est cet amour qui nous pousse à évangéliser, à parler du Seigneur. Tu vois, quand on lit les épîtres de Paul, lorsqu'un frère tombe dans le péché, quand Paul apprend ça, il pleure. Pourquoi? Cette personne vient de sortir du royaume. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 dit, « Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. » Tu vois?
2 Corinthiens 12,
verset 21. Là, ça nous montre clairement que Paul est touché.
Le cœur de Paul.
Oui, il est touché. Lorsque quelqu'un rétrograde, lorsque quelqu'un abandonne Christ. Autrefois, quand à l'église, on vient nous dire qu'un frère est tombé. Mais ça fait pleurer. Pourquoi? Parce que vous le voyez physiquement, mais il n'est plus dans le royaume. Et il risque de ne plus revenir dans le royaume. C'est ça qui crée la compassion en vous. C'est ce qui fait pleurer. Et on commence par prier pour cette personne. La discipline n'a pas pour objectif de détruire la personne, mais de l'aider à prendre conscience de son état et à revenir. Et c'est pour ça que quand on discipline quelqu'un, on ne le livre pas à lui-même. On place des gens qui l'aident à revenir au Seigneur. Donc, c'est la compassion qui fait que nous dépensons aussi pour les gens. Tu vois, là, dans ce qu'il dit, Jésus pardonnera s'il se répande. En d'autres termes, la repentance précède le pardon des péchés. C'est ce que Jésus a dit avant de partir, dans Luc 24. Il a dit, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés à mon nom. Et c'est ce que les apôtres ont toujours fait. Et c'est ce que nous devons faire. Nous prêchons à la personne, nous l'amenons à comprendre qu'elle doit se repentir. Et que si elle se répand, elle sera pardonnée de ses péchés. Dans Actes chapitre 5, Pierre dira ceci à Israël, parlant du Seigneur, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Tu vois, même pour Israël, ceux qui avaient la loi, la Torah, ceux qui avaient les promesses de Dieu, la repentance et le pardon des péchés, pour Israël. Maintenant, pour nous qui n'étions même pas de la famille d'Abraham, qui venons d'un arrière-plan fétichiste, qui sommes idolâtres, de par nos origines, parce que nos ancêtres, à la quête de la puissance et des forces occultes, de sorcellerie, tout ça, ont fait des alliances avec les puissances des ténèbres, et ça a des répercussions sur nous. Alors, quand nous venons là, en ce moment, à Christ, faut pas jouer avec la nouvelle naissance. C'est la repentance des péchés. Le pardon maintenant est accordé quand on se répand. Mais si quelqu'un joue et pense que non, lève la main, Seigneur Jésus, toutes ces récitations-là, mais la personne n'est pas sincère, elle n'ira pas loin, elle n'entrera même pas dans le royaume. Elle peut être dans l'église, mais elle n'est pas dans le royaume de Dieu parce que personne ne peut bluffer Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. Si tu es réellement converti, ce dont la Bible parle, tu peux toi aussi dire oui, c'est vrai. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et vous-même, vous pouvez témoigner, oui, il y avait tel péché qui me liait avant, mais depuis que je me suis converti, ce péché a disparu de ma vie. C'est ça la vie chrétienne normale.
Très bien. L'autre, Laurent, ce qui attire mon attention dans cette strophe-là, c'est le premier vers ou la première phrase. Quoique tous le méprisent, le pour Jésus, bien sûr, il attend toujours. Mais ça, ça veut dire quoi? Mais quel est le sens?
C'est
pourquoi que tous le méprisent?
La patience de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit, moi, j'étais un homme violent, un blasphémateur. Pour qu'un juif puisse dire de Jésus qu'il est un blasphémateur, il confesse là que Jésus est Dieu. D'accord? Parce que aujourd'hui en Israël, j'en parlerai plus tard, mais le problème des Israéliens, c'est qu'on leur a fait croire que Jésus est maudit, il est ceci, il est cela. Donc, c'est pourquoi ils ne croient pas en lui. Mais ici, Paul dit, moi j'étais un homme violent, j'étais un blasphémateur, mais pour que Dieu puisse manifester sa longanimité, sa longue patience envers moi, pour dire aux gens, quels que soient vos péchés, s'il a pu sauver Paul, il vous sauvera aussi.
Okay.
Donc c'est pour cela qu'il est dit ici, il attend toujours.
Il attend toujours.
Il attend que le fils prodigue revienne. C'est comme l'histoire du fils prodigue, le papa a attendu. attendu avec patience. Il va revenir. Avec foi, il va revenir. Et quand il a vu de loin, il a couru à son rencontre. C'est la même chose. Le jour où nous nous repentons, le ciel ne croise pas les bras pour nous regarder, mais le ciel vient à notre rencontre. Et une réconciliation se produit en ce moment-là.
Très bien. Une réconciliation se produit en ce moment. Vous êtes en train d'écouter l'émission Études sur Cantique et nous sommes en train d'étudier le chant « Secourir les perdus » qui parle de l'évangélisation. Secourez les perdus, soignez les mourants. Christ est plein de bonté, il sauvera. L'autre Laurent, que se passe-t-il dans la vie de l'homme lorsque nous annonçons la bonne nouvelle de Christ à un pécheur?
Là, dans cette partie de la chanson, il est dit.
Quelle partie?
Troisième couplet.
Ah d'accord, troisième couplet. Oui. Très bien, oui.
Là, il est dit, le cœur coupable de l'homme brisé par Satan. Nous devons d'abord comprendre que chaque homme que nous voyons ici sur la face de la terre est une victime de Satan. Il est méchant, c'est une victime de Satan. C'est un meurtrier, c'est une victime de Satan.
Okay.
Il est dur de cœur, c'est une victime de Satan.
Okay.
C'est sur cette base seule. Comment est-ce que le médecin arrive à traiter les gens? Il traite les gens parce que c'est des malades. C'est des gens qui ont besoin de soins. Je ne pense pas qu'un véritable médecin, quand il voit les souffrants, il est en colère. Pourquoi tu es malade? Toi aussi, à ton âge là, pourquoi tu souffres? Non. Mais il est ému. Et parfois, quand vous les rencontrez, c'est vrai, d'un point de vue professionnel, ils sont doux. Et quand ils vous parlent, vous posent des questions, ils sont doux. Mais nous aussi, quand nous voyons les gens, malgré leur sourire, malgré l'argent, tout ce qu'ils ont là, leur âme, parce que c'est cette partie de l'homme là qui est conscient de l'éternité. La partie physique, le corps ne sent pas. L'âme sait que chaque année qui passe, c'est un pas de plus vers l'éternité sans Christ. C'est pour cela que l'anniversaire, ce n'est pas l'ajout d'une année, c'est la soustraction d'une année.
En réalité.
C'est pour cela que dans Psaume 90, il a dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Ce n'est pas addition. Si l'année passée, tu avais 39 ans et qu'aujourd'hui où je parle, tu as 40 ans, ça ne veut pas dire que Dieu t'a ajouté une année. Non. Fais une soustraction. Tu enlèves 40 de 70 ou 40 de 80 et tu sauras que chaque jour, là, tu t'approches de ce lieu où tu ne pourras plus jamais revenir. Et nous, pasteurs, prédicateurs, quand nous voyons ces gens, nous nous disons, mais quand je prêche à quelqu'un, il se peut que c'est la dernière fois que cette personne écoute la parole de Dieu. Je fais quoi? Je lui dis avec passion pour qu'elle comprenne qu'elle a une occasion unique maintenant. Et cette occasion peut ne plus se représenter. Et donc quand il dit, Le cœur coupable, la personne est déjà coupable. Jésus ne nous envoie pas pour culpabiliser les gens. Elle est déjà coupable, elle est brisée par Satan, parce que Satan a une haine terrible contre les hommes créés à l'image de Dieu. Il a perdu le ciel, ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de sa chute, mais quand il a su qu'on devait nous créer supérieurs à eux, tous à la maison, donc il veut à tout prix t'empêcher d'aller au ciel. Jésus seul peut te permettre de venir. Et nous aussi, quand nous allons vers les gens, quand Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », il m'a un, pourquoi? Pour parler en langue seulement? Non. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Je leur dis, Jésus peut te délivrer. Si tu te convertes, il va te délivrer. Pour faire quoi? Pour annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Ceux qui étaient hier opprimés par le diable, par les démons et tout ça là. Quand ils entrent en contact avec l'évangile, ils sont affranchis. Ils sont libérés. L'Esprit du Seigneur, parce qu'il m'a oué. Quel est l'objectif de Dieu en noyant ses disciples? Parce que le baptême du Saint-Esprit n'est pas pour les gens du monde, c'est pour les disciples de Christ. Et là, ici, il a dit, il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bonne nouvelle. Donc là, notre responsabilité, c'est de permettre que le Seigneur puisse toucher les gens au travers de nous. Je me souviens, il y a cela quelques années là, j'étais avec mon grand frère, on était ensemble, puis un jour comme ça, j'ai commencé à jeûner, à prier pour lui. Plus de trois jours de jeûne sec là, à l'époque on faisait les jeûnes. Et à un moment donné, j'ai commencé à pleurer. Et il était juste à côté, il était surpris parce que me connaissant, moi je pleure rarement. Quand j'ai fini le jeûne, il m'a appelé, mais pourquoi tu pleures? Toi-même tu pleures, qu'est-ce que tu as? Je lui ai dit, si tu vois ce que je vois, si tu entends ce que j'entends, si tu sais ce que je sais, tu pleureras plus que moi. Aujourd'hui, tu ris.
Alors que c'était pour lui. Hein.
Oui, tu ris, mais parce que tu ne comprends pas. Je ne veux pas te perdre pour l'éternité. C'est pour cela que je pleure. C'est pour cela que j'ai dit à Dieu, quoi qu'il me coûtera, il faut que tu changes de vie, que tu naisses de nouveau. Dieu merci, avant qu'il ne meure, il s'est converti. Nous devons nous investir dans la prière. Et Dieu ne nous demande pas 1000 âmes à la fois. Frère, sœur, juste une personne. Lutte avec Dieu jusqu'à ce que... Tu sais, il y a des moments dans la prière, quand tu pries, à un moment donné, l'Esprit te dit, je t'ai exaucé. Et tu sais que tu as été exaucé. Oui, prenons ça comme un devoir chrétien. Hein? Juste une personne là, jusqu'à ce qu'elle naisse de nouveau. Et tu te réjouiras de ce que tu as participé au salut d'un être humain, créé à l'image de Dieu. Tous ces hommes que vous voyez, c'est des victimes. C'est des victimes. Quel que soit ce qu'ils font, c'est parce qu'ils sont victimes qu'ils le font. Quand ils vont naître de nouveau, ils ne deviendront plus des tentateurs. Quand ils vont naître de nouveau, ils ne seront plus des instruments entre les mains du diable. C'est des victimes.
Très bien. C'est des victimes. On écoute encore un extrait. Oh bien, là, on écoute, oui, un extrait de la chanson et on va revenir pour aborder le dernier couplet de ce cantique « Secourir les perdus » que nous étudions dans l'émission de ce jour.
Courez les perdus, soignez les mourants.
Prêcher l'évangile aux perdus, est-ce une obligation pour tous les chrétiens?
Oui, mais tu as répondu déjà à la question, c'est une obligation. Pourquoi?
Oui.
Parce que le Seigneur l'a dit, c'est un ordre qu'il a donné.
Oui.
Nous sommes sauvés
oui.
pour servir. Nous oui. servons sous deux angles.
Donc, ceux qui, aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens aujourd'hui et qui ne prêchons pas l'évangile aux perdus,
nous désobéissons au Seigneur. Tu sais, généralement, quand quelqu'un est réellement converti, il parle de Jésus. Vraiment converti. Il sait parce qu'il l'empêche, mais il va parler de lui. Je te donne juste un exemple. Hein. Dans les années 83 et autres, on était en quatrième. Tu te souviens de cette dame-là, Madame Sivomé, la première dame à être mère d'une ville africaine. Je crois qu'à l'époque, quand elle a fini, elle était à la retraite. Elle venait nous faire des cours de religion. J'étais au CEG, tout concentre à l'époque. Petit pagailleur et tout le reste. Et elle
nous venait. Non converti.
Des cours de religion. Mais, n'étant pas converti, bien entendu, un jour, dans tout ce qu'elle citait de la Bible, elle a cité un verset qui m'a suivi avant que plus tard je ne me convertisse. Elle a dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça m'a perturbé. Dit, mais pourquoi cette dame, elle est âgée, pourquoi elle fait encore ça? Ça m'a suivi. 6 années plus tard, je m'étais converti. Et depuis que je me suis converti, cette chose est sur toi. Quand on dit appel de Dieu là, c'est sur toi. Tu dors avec, tu te réveilles avec. Et quand tu vois les gens, même en pleine discussion, à un moment donné, tu te dis, et si je ne la revois plus cette personne?
C'est ça.
Et si c'est la dernière fois que je parle avec cette personne? Et si un jour on vient me dire que la personne à qui tu as parlé la dernière fois a quitté ce monde sans Christ. Donc, quand tu te réveilles, c'est là l'appel. Elle est là. Cette vocation est là. Elle te perturbe. Tu fais des plans pour aller ici, pour aller là. Dieu te ramène. Reviens ici. Tu dois parler de moi. C'est ça l'appel de Dieu. C'est pas l'appel pour la gloire, pour se faire un nom, pour avoir une renommée. La nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Pourquoi? Parce que si je n'annonce pas, s'il meurt, il va te redemander leur sang. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est pour se faire de l'argent. Non, c'est quelque chose qui te perturbe. Quand tu sais que cette personne, elle est joviale, elle rit, elle fait ceci, mais elle est sur le chemin qui mène à la damnation éternelle. Et elle risque de ne... Tu ne la verras plus jamais, peut-être. La seconde fois ou la prochaine fois où tu la verras, c'est au jour du jugement dernier, quand cette personne viendra se présenter. C'est vrai qu'elle sera vouée à l'éternité. Elle va se présenter et dire, toi je te connais là, toi chrétienne je te connais. Tu travaillais dans ma société, tu savais que je pouvais naître de nouveau. Tu ne m'as jamais parlé de ton sauveur. Toi là je te connais. Mais madame, tu c'est toi ma femme. Tu sais que si tu me parlais de Jésus, je pouvais naître de nouveau. Tu ne m'as rien dit, on a passé des années ensemble. Tu ne m'as rien dit. Tu vas dire quoi en ce moment? Ton fils va venir se présenter devant toi. Maman, tu ne m'as pas dit. Papa, tu ne m'as pas dit. En ce moment là, tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire? Quand tu regardes les gens avec les yeux de Dieu, quand tu regardes les gens avec des yeux de Dieu, quand tu écoutes les nouvelles, quand on dit des milliers de personnes meurent, des centaines de personnes meurent, ça te fait quoi? Ça te dit quoi? Mais ça te donne... Qui leur a parlé de Jésus pour la dernière fois? Ces hommes qui meurent en Europe, ces hommes qui meurent au Brésil, qui leur a parlé de Jésus pour la dernière fois? Ils rentrent dans l'éternité sans Christ. Ce pourquoi il nous a appelés, c'est la passion, c'est la compassion. C'est pourquoi quand nous allons à lui dans la prière, tu vois, tu ne peux pas aller à Dieu dans la prière et maudire quelqu'un dans la prière. Pourquoi? Parce que c'est son âme. Tu veux que son âme soit sauvée. Tu veux qu'il soit converti. Tu veux qu'il se réconcilie avec Dieu. Parce que le jugement de Dieu, quand il va s'abattre sur cette terre-là, même les plus arrogants que vous voyez aujourd'hui, aucun d'entre eux ne peut pas tenir. Et si Jéhovah demande, juste choisit de parler. Juste, il prend un homme arrogant et orgueilleux. Quand il parle, c'est comme si lui n'est pas un mortel. Quand il lui dit, quand il juste l'appelle par son nom, en une seule fois, quand il entend cette voix-là, il sera brisé sur le coup. C'est parce que les gens ne savent pas qui Dieu est. Mais notre vie de sainteté, notre vie de passion, de compassion pour les âmes, fera que ces gens... Vous voyez, dans cette chanson, quand tu écoutes, je serais choqué si cette chanson-là, les gens viennent chanter, danser comme si on fait du folklore. Non, ça là, ça parle de quelqu'un, elle ne voyait pas, elle est aveugle. Elle est aveugle. Mais elle avait la vision de l'éternité. Ces hommes qui venaient là, chaque fois, elle allait leur parler. Combien de fois as-tu parlé? Combien de fois as-tu parlé de Jésus à quelqu'un? Moi, je l'ai fait plusieurs années. Mes oncles, mes tantes, tout ça. Mais j'insistais à Dieu jusqu'à ce que tu reçoives une promesse de Dieu. C'est ça la prière persistante. Jusqu'à ce que tu dis, Seigneur, sur ça là, tu dois me garantir. Jusqu'à ce que tu me dis oui sur cette oui. Ça là, il va naître de nouveau avant de quitter ce monde. Je dis, très bien. Là, je prends un autre cas. Mais c'est ça ce que le Seigneur veut de nous. Mais si nous ne faisons pas ça, on va faire du bruit. On va avoir tout ce qu'on veut. Mais dans l'éternité, on aura honte. Il nous a sauvés, on n'a rien payé. Pourquoi tu veux avoir de l'argent avant de parler aux gens? Pourquoi? Je vois des gens dans les marchés qui prêchent aux bonnes femmes. Mais généralement, quand vous voyez, c'est l'argent qui les intéresse. Parce que à la fin, cette femme-là, peut-être, elles ne sont même pas converties. Et viennent donner de l'argent. C'est pas ça qu'il nous a appelés. Frère, nous ne sommes pas des mendiants de Dieu. Sœur, nous ne sommes pas des mendiants de Dieu. Nous sommes appelés à participer au salut des âmes. Vous ne pouvez pas, si vous avez le vrai Saint-Esprit... Si vous avez le vrai Saint-Esprit en vous, vous ne pouvez pas voir mourir sans que cela ne vous touche. Vous ne pouvez pas, quand vous allez aux cérémonies funèbres, vous voyez ces messieurs-là, cette dame qui s'asseye. Vous savez que dans cette foule-là, quelqu'un va encore partir, quelqu'un quittera ce monde. Si vous avez le vrai Saint-Esprit, vous ne pouvez pas les voir et vous réjouir. Non, vous, à cette époque de l'histoire de l'humanité, si tu as vraiment le Saint-Esprit, tes nuits-là seront baignées de larmes. Parce que tu sais, ils sont nombreux qui meurent sans Christ. Quand tu écoutes ces choses, ça te perturbe. Ça te perturbe. Et tu te dis, Dieu, si tu ne sauves pas ce monde, mais ils seront des milliards de personnes à aller dans le séjour des morts sans Christ.
Très bien. Voilà. Je vais relire les paroles de ce cantique-là. C'est vraiment sérieux. Secourez les perdus, soignez les mourants, et par pitié, sauvez-les du péché. Pleurez pour les errants, relevez les faibles, parlez-leur de Christ, le puissant sauveur. Quoique tous le méprisent, il attend toujours de voir revenir l'enfant pénitent. Suppliez-les, mais cesse et sans cesse. Suppliez-les sans cesse et avec tendresse. Jésus pardonnera s'ils se répandent. Le cœur coupable de l'homme, brisé par Satan, peut être pleinement guéri par la grâce. Touché par notre amour et par notre bonté, les cordes rompues vibreront de nouveau. Secourez les perdus, le devoir l'exige. Le Seigneur donnera la force pour l'œuvre. Menez-les patiemment à l'étroit chemin. Dites aux pauvres errants qu'un sauveur est mort. Secourez les perdus, soignez les mourants. Oui, soignez les mourants. Christ est plein de bonté, il sauvera. L'autre Laurent, on va se dire au revoir. Que le Seigneur te bénisse pour les...
Secourez les perdus, soignez les mourants, et par pitié, sauvez-les du péché. Pleurez pour les errants, relevez-les faibles, parlez-leur de Christ le puissant sauveur. Secourez-les perdus, soignez leurs mourants. vivre.